Il se raconte, c'est ce qu'un moine aurait rapporté, qu'au XIIIe siècle, l'empereur romain et roi Frédéric II voulut faire une expérience pour savoir quelle était la norme naturelle de l'être humain. Il ordonna à des nourrices d'alimenter les enfants, de les endormir, de les baigner, mais surtout sans jamais leur parler. Il espérait ainsi découvrir quelle serait la norme que ces bébés choisiraient, mais l'expérience ne donna pas le résultat escompté, puisque non seulement aucun bébé ne se mit à parler, mais tous dépérirent et finirent par mourir. La langue et la parole ne leur sont pas venues naturellement. Lacan, parlant de la mère, disait que le fait qu'elle soit un être parlant est absolument insatiable. Une nourrice muette ne serait pas sans entraîner quelques conséquences assez visibles dans le développement du nourrisson. Donc la parole est essentielle. Cela dit, qu'est-ce qu'on peut en dire quand les paradoxes à son sujet sont multiples? Puisque la parole est par exemple souvent associée à la voix, laquelle ne fait pas automatiquement une parole. Elle a longtemps été associée à un phénomène dû à l'évolution de l'espèce humaine. Or, contrairement aux théories qui établissaient que c'est l'acquisition de la station debout chez l'homme qui, parce qu'elle a fait s'abaisser le larynx, a engendré la parole, donc aux théories qui font de la parole une acquisition naturelle issue d'une compétence technique. Les linguistes en sont mis à penser que la station debout n'a fait que modifier le son d'une parole qui était en fait déjà là. D'ailleurs, la parole trouve à se dire dans des langues sifflées, par exemple, qui n'ont aucunement besoin de la station debout, ou dans ce que nous connaissons mieux, la langue des signes. Elle peut aussi être faite de rythme, de ton, d'accent. C'est une patiente qui me faisait remarquer l'importance de son accent qu'elle avait un temps cherché à dissimuler, se demandant ce que ça pouvait bien vouloir dire. La parole est précieuse. Elle peut changer une vie, elle peut la figer, elle nous habite, elle nous échappe, elle peut être bruyante, silencieuse, elle peut apaiser, mais faire exploser des guerres et des génocides. Elle permet de défaire ce qu'elle a fait, c'est ce qu'on sait pour la psychanalyse. Elle serait bavardage, impuissante donc, mais puisqu'elle peut faire surgir un dire, c'est donc qu'elle a une puissance certaine. Et peut-être que c'est le quatrième démenti infligé à l'humanité, elle n'est pas une spécificité de l'être humain qui a pu se croire le seul vivant en disposant, puisque au moins un animal a eu la parole, c'est la chienne de Lacan. Certes, c'est pas n'importe quelle chienne, mais quand même. Alors peut-être est-ce parce qu'il a supposé que son auditoire douterait de la parole de sa chienne qu'il a précisé qu'il n'y avait aucun doute. Alors bien sûr, il ne lui prêtait pas un don unique. Si elle parlait, il en était ainsi généralement des animaux qui possèdent cet outil si précieux qui est au fondement de la technique psychanalytique, donc voilà, qui est quand même assez curieux. Cela dit, il paraît qu'il y a des psys pour chiens. La parole de l'être humain a plusieurs spécificités. Parole et langage sont liés pour les humains. Lacan disait de sa chienne qu'elle avait la parole, mais non le langage. Aussi, comme l'a remarqué Steinbeck, tout comme il peut manger sans avoir faim, boire sans avoir soif, l'homme peut parler alors qu'il n'a rien à dire. Parler peut servir alors uniquement à jouir, à contrôler, ou bien seulement à émettre des sons rassurants pour les autres ou pour soi-même, pour éviter ce qui ne serait pas rassurant. Parler, éventuellement, pour ne pas être submergé, pour survivre au réel. Lacan remarque pour sa chienne qu'elle, quand elle parle, c'est qu'elle en a besoin. Une autre spécificité, donc, il y a du petit autre aussi, mais aussi du grand autre pour l'être humain, alors que pour la chienne de Lacan, il n'y a que le petit autre. Comme il dit, elle ne le prend pas pour un autre. Et puis l'être parlant a cette particularité de mentir, y compris sans intention consciente, du fait de la schizophrénie en prononciation et énoncé. La parole véhicule le mensonge et la vérité, avec des passerelles, si ce n'est un collage, entre l'un et l'autre. Nous ne serions donc pas tout à fait comme les animaux. Serait justement le dire qui nous différencie, le dire comme verbe et a fortiori comme substantif. Aller trouver un dire qui s'inférerait de la parole d'un chien, fût-il celui de Lacan, c'est pas gagné. Le dire serait-il humain? Le parler serait-il un dire humain? Question d'autant plus intéressante que, avec le développement de ce que l'on appelle l'intelligence artificielle, nous arriverons peut-être un jour à un dire artificiel, issu d'une parole qui ne serait tout autant. Alors, ce n'est pas une question que je vais développer, mais ça pose une question pour une autre fois. Pour l'instant, je dirais que la parole ne peut être prise que dans la mesure où elle nous est donnée, parce que le langage humain, je cite là Lacan, ne surgit pas chez les êtres comme ressurgirait une source. Elle n'est pas un don naturel, mais un don de l'autre, dont nous ne faisons pas toujours ce que nous voulons, et qui n'est pas forcément un cadeau. Parler suppose que l'autre parle, et ce qui fait parler prend donc son origine d'une rencontre. Besoin, demande et rencontre avec le désir de l'autre vont faire parler le sujet. Autre condition, l'existence de la parole, comme Lacan le précise dans le séminaire « Le désir et son interprétation », il est nécessaire que le sujet y soit impliqué, ce qui suppose donc qu'il prenne sa part, soit qu'il en fasse usage. On aura alors affaire à un double processus d'aliénation et de séparation, assujettissement à l'autre, antérieur au sujet, trésor des signifiants, qui se fourdit dans le discours que le sujet va articuler, et séparation parce que la barrière implique une perte d'être. Parler sépare, fait coupure. La parole qui implique une perte de vie est en quelque sorte mortelle. D'autant plus qu'elle seule peut annoncer la mort, voire la créer, comme Jean Rouch, ethnologue, a pu l'étudier chez les Dogons au Mali. Il explique que pour ceux-ci, le mythe à l'origine de la mort est venu en même temps que la parole. C'est-à-dire que les hommes étaient immortels tant qu'ils n'avaient pas de langage articulé. Et à partir du moment où Dieu leur a donné la parole, ils ont commencé à mourir, puisqu'ils pouvaient l'un l'autre se dire « tu vas mourir ». On a en quelque sorte un exemple de l'acte performatif de la parole, mais on sait que le performatif ne permet ni de tout faire, ni de tout dire. Il reste un impossible. D'ailleurs, les librairies et les bibliothèques sont remplies de cette tentative, à la fois d'éviter ce rendez-vous avec l'impossible, à la fois de chercher à l'approcher. Et c'est encore plus vrai avec les moteurs de recherche sur Internet qui multiplient quasiment à l'infini les réponses. Ils sont la preuve évidente que de réponses toutes, il n'y a pas. Si vous tapez psychanalyste sur Google, vous allez trouver, ce que j'ai fait il y a une dizaine de jours, 4 580 000 réponses. Si vous tapez Lacan, c'est encore plus, il y en a 6 millions. Pourquoi ce niveau de quantité de réponses ne peut-il pas y avoir encore plus? Cet impossible de tout dire fait que le sujet n'est pas seulement affublé du langage, il en est aussi privé et d'une certaine manière ne cesse d'apprendre à parler pour dire ce qu'il tente de faire comprendre, qu'il ne comprend pas d'ailleurs toujours lui-même. Autrement dit, si nous sommes prisonniers d'un impossible à tout dire, c'est peut-être parce que nous ne pouvons que parler. Encore un paradoxe. En ce sens, la parole n'est pas un plus, ni un moins, mais un manque. Si bien que nous tentons différents modes d'expression pour arriver au dire. L'analyse, dans un discours spécifique certes, est ainsi proche de la poésie, de l'art et de tous les modes d'expression artistique comme tentative de faire circuler une parole pour dire. J'entendais récemment un comédien belge, alors son nom un peu pour moi difficile à prononcer, Dirk Hooft. Je sais ce que j'ai réussi à prononcer. Donc, c'est un monsieur qui joue depuis plusieurs années le seul personnage d'une pièce qui s'appelle Rouge décanté. Dire que, avec son métier, plutôt que de tout dire, ayant bien compris qu'il n'y arriverait pas, estimant à 20%, alors je ne sais pas pourquoi c'est 20%, pas 30%, en tout cas, estimant à 20% sa capacité à dire, il cherchait à faire entendre les 80% restants. Convaincu, avec l'expérience, que c'était pas aussi impossible, il lui fallait toujours remonter sur scène. Il pouvait tout à fait sans cesse rejouer la même pièce. Il y aurait toujours quelque chose de différent à entendre. Si dans ce que dit Rouft, il y a toujours, c'est pas mieux à porter comme moi, mais je dois être habitué à ce que je suppose. Donc si dans ce qu'il dit, il y a toujours du nouveau dans ce qui est répété, le dire, dès lors qu'il est événement, induit quelque chose de nouveau, mais aussi de la fin. Ce qui caractérise l'événement, et qu'avant et après, ça n'est pas tout à fait pareil. Avec le dire, il y a un plus, donc, un effet, d'où la vie dans la cure de dire ou de la parler. Le dire attendu au lieu d'achoppement du discours de l'analysant, pour apercevoir le code source à l'origine de l'algorithme résultat du chiffrage de la jouissance. Dire, il faut bien le reconnaître, c'est très difficile, sinon les analyses seraient peut-être plus courtes. Et qui peut dire qu'elle ou il n'a pas rencontré une difficulté à parler dans son analyse. Alors il y a un phénomène comme ça, première vue, qui peut paraître étonnant. Bien souvent, le sujet ne croit pas ou bien croit trop à la parole. Je dis étonnant parce que l'effet de la parole, c'est une évidence, a priori. Qu'est-ce qui se passerait si nous ne parlions pas ? Probablement pas grand-chose. Nous savons bien que tout événement dans nos vies est effet d'une parole qui n'en passe pas forcément par la voix. Ça peut être aussi l'effet d'un réel qui, lui, pour le coup, se passe de la parole. Si la vérité parle, comme on l'a dit tout à l'heure, le réel lui dit la vérité, mais il ne parle pas. Je cite là Lacan. Je laisse le réel de côté pour l'instant. C'est une évidence que la parole dans la cure a des effets thérapeutiques. Et pourtant, quel analyse ne répète-t-il pas que ce qu'il dit n'a aucun intérêt et remet en cause l'intérêt même de sa cure? Il n'y croit alors pas. Ça n'est pas possible. C'est une patiente qui a récemment arrêté son travail avec cette formule « Je reviendrai dans quelques semaines. Pour l'instant, j'ai besoin d'agir. » Alors j'ai eu beau tenter une répartie, espérant faire interrogation, si c'est une interprétation, sur l'empêchement à agir qui serait provoqué par le fait de parler, elle n'est jamais revenue. Alors bien sûr, j'ai à interroger, probablement même en premier, sur ce ratage non réussi, sur ce qui n'a pas fait interprétation, ou cette attente d'agir qui révélerait l'absence d'acte et la parole dans la cure. Mais ça montre bien que l'effet de la parole n'est pas une conviction suffisamment assurée, ou bien au contraire, que la conviction est telle qu'elle fait horreur. La peste de la castration est à l'horizon. C'est un fait, dire, déployer sa parole à des effets curatifs provoque des transformations subjectives. Mais en même temps, comment peut-il y avoir du dire si l'être parlant jouit et s'il ne veut rien en savoir de plus ? Vous connaissez peut-être cette forme de Lacan. Parole et dire semblent, dans ce cas, être inadéquates. Comment se fait-il dès lors que d'une parole puisse surgir un dire? C'est tout de même bien curieux, dit Lacan dans une conférence de 1974 intitulée « Le phénomène lacanien ». Dire et parole semblent fonctionner en va-et-vient. Il faut parler pour dire quoi que ce soit. L'un et l'autre sont effet et acte de l'un, de l'autre. Le dire précéderait-il la parole ou bien l'inverse? Par exemple, le dire de De Gaulle, issu de la parole de l'appel du 18 juin, n'est-il pas issu d'un dire qui le concerne lui au premier chef? Autre exemple, le dire de Césaire, qui s'ensuit de sa théorisation de la négritude, n'est-il pas issu d'un dire qui le concerne lui et lui seul? Pas n'importe qui pouvait être l'origine de ce dire. C'est valable pour la parole qui en passe par les mots, mais par la musique aussi. Pour qu'il y ait la musique de Mozart, il faut savoir l'entendre au-delà d'une suite mathématique et logique de notes, mais il faut Mozart. Et le dire de Freud ne précède-t-il pas ses dits? Son travail n'a-t-il été possible que du fait de son dire, ou bien son dire a-t-il fait seulement ses dits? C'est un peu la question de l'origine de l'effet de la peau. Le dire est la condition de la parole, mais la parole est réciproquement la condition du dire. Pour dire, il est nécessaire de parler dans la cure, de laisser parler et d'entendre l'inconscient, condition à laquelle s'en ajoute une seconde, donc le dire suppose d'être entendu. Dans les exemples hors la cure que j'ai cités, il a fallu que De Gaulle soit entendu, que Césaire soit entendu. Pour ce qui est de la psychanalyse, il a fallu que Freud entende. Lorsque Anna O prononce sa fameuse expression de talking cure, Freud n'était pas un ignorant de la parole, parce qu'elle se trouvait déjà au centre de ses recherches, au fondement même de son travail de médecin, puisque l'une de ses premières publications, c'est Contribution à la conception des aphasies. Et on remarquera d'ailleurs que travaillant sur l'aphasie, c'est déjà vers un point bien particulier que sa curiosité le pousse, puisque c'est sur ce qui ne fonctionne pas dans la parole qu'il s'attarde. Donc, il avait déjà une écoute aiguisée, et on voit que pour que Anna O soit entendue, il a bien sûr fallu qu'elle parle, mais aussi que quelqu'un l'entende, même si pour Freud, ça n'a pas été en direct. Qui entende plus qu'il n'écoute, puisque si la psychanalyse était une expérience fondée et centrée sur la parole, ça ne suffit pas. S'il suffisait de parler et d'écouter, à la limite, quiconque sans expérience aucune ni étude pourrait être analyste. D'ailleurs, c'est bien souvent pourquoi quiconque se croit analyste. Et peut-être aussi pourquoi les patients s'interrogent sur l'intérêt d'une parole avec un analyste. Qu'aurait-elle de spécifique, d'autant plus à notre époque où parler semble avoir de moins en moins de conséquences quant à la responsabilité du locuteur, quand le cynisme semble prendre de l'ampleur. L'analyste ne s'autorise que lui-même, on connaît bien cette formule de Lacan, mais pour autant, il dit aussi, pas tout être à parler ne saurait s'autoriser à faire un analyste. Au fond, le premier dire de la psychanalyse n'est peut-être pas de Freud, mais d'Anna O, dont Freud a su entendre le dire. Ce n'est pas le sens du propos d'Anna O qui fait dire, c'est ce qu'il induit, dans la mesure où il est lu par un autre, et en l'occurrence dans Freud. On pourrait peut-être dire que c'est un exemple typique de dire qui existe au dit, qui surgit d'un dit effet événement, et c'est peut-être une leçon à tirer pour l'avenir de la psychanalyse. Si l'avenir de chaque cure est lié tant au dit à l'homme disant qu'à l'analyste, c'est aussi vrai de la psychanalyse, plus généralement. Aux deux conditions que j'ai évoquées, qui concernent le dire plus généralement, donc hors la cure, dans la cure, je dirais qu'il s'en rajoute deux autres qui relèvent de l'expérience et de l'acte. Il faut un coup de force. Coup de force, c'est une expression que je reprends de Lacan, du séminaire Le Symptôme. Expression qu'on peut peut-être rapprocher d'une autre qui a été le tour de force qu'il accordait au poète. Donc, cette expression qu'on retrouve dans le séminaire, je ne sais plus lequel, ça sera dans la publication. Là, je cite Lacan, « Si chaque acte de parole est le coup de force d'un inconscient particulier, il est tout à fait clair que, comme nous en avons la théorie, chaque acte de parole peut espérer être un dit. Pour équilibrer, il faut donc un acte de parole, mais aussi un inconscient particulier. » Qu'est-ce que ça pourrait être, un inconscient particulier? Lacan ne le précise pas, en tout cas pas ici. Je fais l'hypothèse qu'il s'agit d'une formation de l'inconscient, propre à chacun, comme un lapsus par exemple. Et quatrième condition, entendre le dire implique pour l'analyste de ne pas se dédire, soit d'interpréter. Pas le dire sans interprétation, le dire un peu fantique de l'analyse, comme on l'a vu en avril, c'est le résultat de la conjugaison du dire de l'analysant et du dire de l'interprétation, issu de ce que Lacan aussi appelait parole d'interprétation, c'était en littérature. Le dire apophantique, issu du dire d'analysant d'analyste, issu eux-mêmes d'une parole, sont issus eux-mêmes d'une parole. Lacan a parlé aussi d'une pratique de bavardage. C'est dans le séminaire 25, qui est une expression qui est quand même étonnante, pratique bavardage. D'autant plus que donc, ce n'est pas un propos du Lacan des tout débuts, mais du moment de conclure, donc on est en 77. Ce n'est pas une petite erreur de début, par exemple. 25 années de séminaire pour en arriver là, on pourrait se dire tout ça pour ça, à la première lecture ou à la première écoute, après avoir longuement théorisé sur la parole, sur le dire, après avoir peut-être un peu compris quelque chose, ça peut faire ravalement. Si on a mis tous ses espoirs dans Lacan, c'est la douche froide. Si la psychanalyse, c'est que du bavardage. Bon, mais Lacan étant maître dans l'art de déstabiliser, c'est difficilement à y voir de plus près, ce qu'il fait d'ailleurs lui-même. Ce terme de bavardage, il l'a employé dans différents sens. Quand il s'agit du foisonnement de bavardage dédié de l'amour, par exemple, on est dans le sens le plus commun du mot, soit parler sans conséquence, il y a des faux effets, la jouissance. Il précise un peu plus loin dans ce même séminaire que le bavardage, tel qu'il l'entend quand il l'associe à la pratique de la psychanalyse, se réfère à l'étymologie. Le bavardage met la parole au rang de baver ou de postillonner. Elle l'a réduit à la sorte d'éclaboussement qui en résulte. Bavard, ça vient de bave. Bavasser, d'ailleurs, un synonyme de bavarder. Et pour celui qui sait manier la parole, l'avocat, on dit bien le baveux. Et bave, dans l'ancien français, signifiait le parler puéril, d'où un lien que peut-être Lacan a fait avec l'amour. Qu'elle soit une pratique de votre bavardage, ça ne veut pas dire qu'elle n'est que ça, ni que l'analyste bavarde, l'analysant bavarde. L'analyste, lui, s'est commis dans le bavardage, dans sa propre cure, et pratique à partir des éclaboussures de l'amour. Ce bavardage-là n'est pas sans risque. Il pourrait avoir des conséquences. C'est ce que certains savent très vite. Je ne parle pas de ce qui est courant, comme par exemple quand je parle des gens qui veulent arrêter de parler pour les conséquences que ça peut avoir. Donc je ne parle pas de ce qui est courant, de la séance qui commence par « je ne sais pas quoi dire », qui éventuellement va finalement être plus bavarde que les autres. Je parle des patients qui sont mutiques dès les premières séances, alors que pourtant, c'est, semble-t-il, de leur fait qu'ils sont venus, même si parfois, on s'apercevra que c'est en fait poussé par quelqu'un d'autre, et que leur silence peut être un refus adressé à cet autre, souvent le ou la conjointe. Il peut être très difficile, voire prendre un temps long, pour qu'une parole en son advienne, tant ils ont en quelque sorte cette sagesse de ne pas parler, et de se laisser parler, donc ayant pour moi l'intuition des conséquences, du risque de la rencontre du désir ou de l'horreur de savoir. Ils attendent bien souvent, mais pas toujours, que ce soit nous qui parlions. Ces quatre techniques sont intéressantes car elles nous montrent que c'est dans la moindre parole qu'il y a du dire possible, et la question « qu'est-ce qui fait parler ?» n'est alors pas juste philosophique ou anthropologique, elle est très concrète et concerne la clinique. L'interprétation fait parler, même si elle intervient bien souvent à partir d'une parole. Quelle interprétation ? À partir du silence. Alors, non pas qu'il ne puisse pas y en avoir, même si l'on théorise assez souvent sur le silence de l'analyste, qui parfois arrange bien, plus complexe peut-il être d'opérer avec le silence d'un patient en début de travail, tant que la mise en place du sujet supposé savoir n'est pas acquise. Au lieu de répondre, dans le sens de à l'endroit de répondre, rester silencieux pour l'analyste n'est pas forcément faire silence. Lacan, pour l'exemplifier, s'est servi au tout début de son premier séminaire du bouddhisme zen, dans lequel, je le cite, le maître interrompt le silence par n'importe quoi, un sarcasme, un coup de pied. On parle souvent de la sagesse du bouddhisme, mais là, il ne s'agit pas du tout de sagesse, mais plutôt d'impertinence. Comme dans cet autre exemple, où un moine demande à un maître « qu'est-ce que le Bouddha ?» Le maître de lui répondre « trois livres de l'un ». L'impertinence... Pardon ? Non. L'impertinence...
Il faut préciser l'écriture de l'un.
« Trois livres de l'un », L-I-N.
C'est ça.
Donc l'impertinence, ça peut concerner l'analyste, qui vient déloger de la pertinence contenue. Elle peut être nécessaire pour arriver à l'impudence du dire qui se passe de l'autre, à la différence de la parole. La parole, si on veut bien s'y frotter, si on veut bien passer le stade du flirt avec elle, ne pas se complaire dans un usage, voir son amour courtois, la parole produit des signifiants maîtres connectés à une jouissance. Et peu à peu, les fixations de jouissance vont pouvoir être remaniées. On pourrait parler d'une dénonciation des signifiants maîtres grâce au bavardage. Rien à voir donc avec cette citation bien connue de Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Alors pourquoi pas quand il s'agit de la science, quand il s'agit de l'université, quand il s'agit de démontrer. Mais avec l'inconscient, avec la jouissance, ça ne fonctionne pas. Je me suis demandé qu'est-ce que Lacan aurait fait d'une phrase pareille. Je me suis amusé à en proposer une, plus proche, je crois, du discours analytique. Ce qui se conçoit bien se dénonce clairement et l'embrouille des mots fera le dire consistant. Il s'agira de mettre non pas de l'ordre mais du jeu pour à partir du désordre accéder à l'obscur. Il faudra en passer, non pas par ce qui est clair, mais par ce qui est brouillé, embrouillé par la matière de l'avant. Pour l'analysant, défaire par la parole ce qui s'est fait par la parole, on passera dans un premier temps par le récit, certes, par l'histoire personnelle. Mais la parole pourra peut-être faire dire quand elle ne sera plus autobiographique. C'est-à-dire quand elle sortira du récit forcément mensonger. Quand elle donnera accès à la langue, soit quand je reprends une formule de Patrick Chamoiseau, quand le récit cède devant le dire qui se saisit, surprend et se surprend. Enfin, Patrick Chamoiseau, qui n'est pas du tout psychanalyste, hein, mais comme je le lisais en même temps que je faisais ce travail, j'ai trouvé que cette formule était très lacanienne. Le dire surprend et ainsi suspend les dits. Comment la parole épuiserait-elle le sens de la parole, sinon dans l'acte qui l'engendre ? Là, c'est Lacan. Peut-être qu'on pourrait dire que l'autobiographie rend compte d'une réalité. Le dire rend-il compte du réel ? Il y a une modification du fait de dire, et à lire la conférence de Lacan dont j'ai déjà parlé, le phénomène lacanien, donc j'espérais y trouver une réponse très précise à cette question, sur cette modification, que je me suis dit que j'allais vous retransmettre en conclusion. Mais en fait, c'est très drôle et aussi très intéressant, la réponse précise, parce que Lacan nous annonce qu'il va la donner, elle manque. Elle manque parce que la transcription de cette conférence, donc vient d'un enregistrement, en tout cas celle que j'ai lue, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont complètes, la transcription rapporte ceci. Les effets de se dire vont tout à fait ailleurs que de corriger le bavardage en question. Bon. Donc il rajoute, ils vont à modifier. Là, on attend la réponse. Et c'est là qu'il y a trois petits points entre parenthèses, un point d'interrogation. C'est le seul mot qui est inaudible. C'est le seul. Voilà. Et c'est d'autant plus rageant qu'il poursuit après. Comment cela peut-il se faire qu'un dire ait ses effets ? Donc, on ne saura jamais. Ce qui fait que j'étais obligé de poursuivre un peu. Pourrait-on affirmer que le dire est écriture, trace qui fixe, qui oriente sans pour autant figer ? Ni écriture philosophique, ni écriture scientifique, ni écriture littéraire, mais une écriture de l'être singulière à chacun. À partir du texte préécrit, ce qui s'est fait par la parole est écriture qui a fixé. Au texte préécrit se sont ajoutés les discours du maître, de l'université, de l'hystérique, qui ont fait écriture également, et le dire fruit de la parole, du discours analytique cette fois, écrit à son tour. Quand vient son tour dans la roue du discours. On dit l'écriture qu'elle tente de cerner le bordel réel. Alors, je ne pense pas que ce soit vrai de toute écriture, comme ce n'est pas vrai que toute parole produit un dire. Mais quand il y a dire, qui introduit l'impossible et non pas simplement l'énonce, là je cite Lacan, un certain réel peut être atteint. Qu'est-ce qu'un certain réel ? Alors je me dis que ça peut être un bout de réel qui peut trouver à être atteint parce que la vérité ne peut être que médite, mais donc seulement un bout. Le dire, peut-être, viendrait entre la vérité et le réel. Et pourrait-on dire que la parole ne rencontre le réel que lorsqu'il y a un dire ? On voit bien en tout cas que l'effet du dire n'est pas de l'ordre du sens, de la démonstration logique, il est effet. Et je cite à nouveau Lacan dans la conférence Le phénomène lacanien, il porte bien plus loin que ce qu'il fournit comme matériel de bavardage. Je ne suis pas sûr que le dire qui opère ait toujours un sens. Il y a même des chances, de fortes chances, que ce qu'il y a de plus opérant, c'est-à-dire qu'il n'ait pas de sens. La cure, le dire de l'analysant, le dire de l'analyste amène donc le sujet à ce qui fait limite, apporte une zone étrangère au symbolique et à l'imaginaire. Mais le réel donc reste l'impossible et l'impossible à dire. Un certain réel est atteint, peut-être jusqu'au mouvement suivant, jusqu'au dire suivant. Pour conclure, je dirais que la parole dans la cure, qui est suivre la règle de la libre association, mais nous le savons pour autant que ce soit possible, puisque de liberté toute, il n'y en a pas. La parole dans la cure, c'est donc presque ou mi-tout, mi-dire, pour un dire qui ne dira pas tout, mais fera un.